Alors j'aimerais vous lire un extrait d'Apocalypse chapitre 2. Je vais vous lire deux versets. Apocalypse chapitre 2, versets 10 et 11. Apocalypse chapitre 2, versets 10 et 11. Donc Jésus s'adresse à l'église de Smyrne. C'est un peu la conclusion de son discours. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. » Afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Donc je ne reviendrai pas un peu sur le contexte de l'église de Smyrne, la persécution qu'ils vont devoir subir, l'apparente contradiction dont j'ai parlé la semaine dernière, où Jésus nous dit « ne crains pas ». Ce que tu vas souffrir. En fait, il nous annonce une mauvaise nouvelle, mais il nous demande de ne pas craindre cette mauvaise nouvelle. Voilà, ça c'est la vie chrétienne parfois. Et en te voyant, on va prier pour Timmy aussi. En fait, je pense pour ceux qui ne savent pas, le papa de Timmy est décédé. Et donc Timmy est parti en Indonésie pour les affaires familiales. Et donc on va prier pour lui et sa famille. Père Céleste, merci de bénir Timmy en ce moment, Seigneur, de l'encourager, de le consoler aussi, qu'il puisse aussi être un agent de ta grâce pour son entourage, qu'il puisse lui-même être une lumière et apporter la bonne nouvelle, Seigneur, et l'espérance qu'il y a au-delà de la mort. Je te demande de le fortifier, de l'aider avec le décalage horaire aussi. Et bref, Seigneur, on te demande de faire concourir au bien tout ce qui peut l'être alors que la situation est difficile et douloureuse. Et je prie ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, Jésus dit « ne crains pas ce que tu dois souffrir ». Et je vais essayer aujourd'hui d'essayer de trouver des applications pour notre vie. Comment traverser les situations, même si nous ne traversons pas les persécutions qu'ont pu subir les chrétiens de l'époque. Et pour cela, on va utiliser un peu les mots grecs, voir un petit peu quels sont précisément les sens de ces différents mots dans ce passage. Et afin d'en tirer des enseignements. Déjà, le verbe craindre, quand il est dit ne crains pas, c'est le verbe en grec phobéo, qui a donné en français phobie et tous les dérivés. Et ça parle de, littéralement au départ, fuir en étant terrifié. Et mine de rien, ce sens plus précis nous aide à y trouver des significations plus précises et pratiques pour nous. Pourquoi ? Parce que le verbe craindre, ça peut donner l'idée que quelqu'un est paralysé, claque des dents, et il a peur d'une situation. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, parfois on fuit ce qu'on craint. Et donc, si, et là n'oublions pas qu'on est dans un contexte de guerre spirituelle aussi, il n'y a pas que les situations terrestres, c'est le diable qui envoie ses tribulations. Puisque Jésus le dit, le diable va vous envoyer une tribulation de 10 jours. Et le diable fait tout pour que nous fuyions notre appel. Et là, quand je dis appel, je ne parle pas uniquement d'un appel missionnaire, l'appel dans un ministère, même si ça peut en faire partie, mais notre appel principal, je dirais, primordial, et je dirais qu'ensuite les ministères et la mission et le côté pratique n'en sont que les prolongements. Mais l'appel que chaque chrétien a sur ses épaules, c'est de glorifier Jésus-Christ dans sa vie. C'est notre appel principal. Et donc, devant les difficultés de la vie, il arrive parfois qu'à cause de la peur, on fuit cette vocation qui consiste à manifester le cœur de Christ. Par exemple, et ça j'en parlerai prochainement dans un autre message parce que c'est quelque chose que Dieu m'a fortement montré cette semaine, mais ça, j'ai besoin là d'avoir du temps pour réfléchir encore et puis de mettre en place le message. Mais si on parle de la foi, par exemple, on peut étudier la façon dont Jésus a cru, malgré les circonstances. Et si on pense à Gethsémané notamment, Jésus, d'un côté, avait peur. Il voulait pas aller à la croix, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais pourtant, il n'a pas fui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une confiance en Dieu qui était supérieure à sa crainte. Et ce qui fait que sa crainte humaine ne l'a pas amené à fuir sa vocation, à fuir son appel, à fuir le plan de Dieu pour sa vie. Et le diable fera tout pour nous faire peur, qu'on ait peur dans le domaine financier, qu'on ait peur de perdre notre travail, qu'on ait peur, alors parfois d'une façon égoïste, on a peur de perdre notre confort, notre propre volonté, on ne veut pas prendre sa croix. Bref, il va nous amener dans une forme de crainte. Et cette crainte peut ensuite nous amener à fuir une situation que permet dans notre vie, à cause de la crainte. Et si vrai que la crainte n'est pas uniquement une émotion, enfin c'est une émotion au départ, c'est une peur, mais ce n'est pas statique la crainte. La crainte est, engendre une action très souvent. Et c'est pour ça qu'on doit avoir confiance en Dieu, parce que quand on a confiance en Dieu, et donc qu'on n'a pas peur, même si on est conscient des difficultés, rappelez-vous ce que Jésus dit à l'Église, là, ne crains pas ce que tu vas souffrir. La souffrance va être là. C'est pas, il n'y a pas un déni par rapport aux difficultés. Mais ce que Jésus est en train de leur dire, implicitement et dans le cadre de ce que je dis cet après-midi, c'est que ne fuyez pas, persévérez, résistez. Et il est important parfois de méditer dans notre vie, c'est qu'est-ce que je crains finalement, de quoi j'ai peur et qu'est-ce qui m'empêche de rentrer dans mon appel. Des fois ça peut être même pour, je me rappelle très bien d'un temps de questions-réponses un jour avec Pasteur Stevens, et alors je ne sais pas s'il était au courant de la situation de la personne ou si Dieu lui avait communiqué quelque chose ou qu'il a parlé par la foi, mais à un moment donné il parlait d'une personne qui était dans la salle et cette personne avait une relation pieuse avec donc c'était une femme avec un homme, ils avaient vocation à se marier, mais cette femme en fait avait peur de s'engager. Pourquoi? Parce que, on le sait, l'épouse se place sous l'autorité d'un mari, donc est-ce que c'est le bon mari, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir, enfin, bref, d'un côté, et ça arrive très souvent, des fois on a envie de quelque chose et en même temps, quand ce quelque chose est là, on en a peur. C'est un peu comme si on voulait un vélo à Noël. Oui, mais après, il faut monter sur le vélo et on risque de tomber. Et donc, d'un côté, on veut se marier et puis à un moment donné, ah ouais, mais attends, quand je vais dire oui, ce sera trop tard après. Donc, aïe, 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 finalement, j'ai envie de fuir. Et donc, il l'avait encouragé en disant, Dieu peut préparer un très beau mariage pour toi, mais si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas passer à côté de ce qu'il a prévu pour toi. Des fois, on va même refuser les bénédictions de Dieu parce qu'on a peur. Et donc c'est important de méditer, de sonder son cœur et de se dire, qu'est-ce qui me fait peur dans la vie? Qu'est-ce qui me fait peur? De perdre mon confort, peur de perdre mon compte en banque, peur de perdre des amis, peur de perdre... Voilà, il y a toujours des choses qui peuvent nous amener à ce qu'on... D'abord, à ce qu'on vive dans la crainte, donc c'est pas agréable, mais en plus, on va fuir certaines décisions. On va fuir certaines situations que Dieu avait pour nous. Là, pour Smyrne, il leur dit pas, ne crains pas, je vais vaincre le diable et tu n'auras pas de tribulation. Non, c'est ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est-à-dire que nous sommes appelés, prendre sa croix, ça c'est dans ce sens-là, hein, c'est ne pas faire sa propre volonté. Donc il y a des fois des choses qui vont pas nous plaire dans la vie chrétienne. Mais n'en ayons pas peur de ça. Craignons plutôt Dieu, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire craindre d'attrister le Saint-Esprit, craindre de passer à côté de ce qu'il a pour moi, craindre de ne pas permettre qu'il m'utilise pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est de ça dont on doit avoir peur. C'est pas des épreuves. Alors je peux comprendre, on est tous des êtres humains, mais le Seigneur veut nous encourager à cela. Et quand il dit « ne crains pas », là le petit mot « pas » en grec c'est quelque chose, ça peut être une personne ou ça peut être rien. C'est-à-dire, voilà, ne crains pas ni personne, ni quoi qu'il arrive dans ta vie. Ne crains pas. Même ce que tu peux imaginer qui n'existe pas. Et donc ça, c'est un point important parce que ces croyants-là allaient être persécutés, aller en prison, certains allaient mourir. Ils avaient déjà des difficultés quand Jésus leur parle. Et ce qui peut être paradoxal quand on a un esprit un peu légaliste, c'est que c'est pas juste ce que Jésus dit pour cette église de Smyrne. Pourquoi? Parce que Jésus ne fait aucun reproche contre cette église. Il y a deux églises où il ne fait pas de reproche, c'est Smyrne et Philadelphie. Presque, il pourrait dire à l'église de Laodicée ou à l'église, enfin les autres, Bon, il y a ça qui va pas. Bon, et donc du coup, le diable va envoyer des épreuves, mais ne craignez pas, je suis encore avec vous, mais d'une certaine manière, vous le méritez. Là, cette église ne mérite pas de vivre en tant qu'église ces épreuves. D'un point de vue légal, ce n'est pas juste. Tout comme Jésus ne méritait pas de vivre ce qu'il avait à vivre. Et donc ça, c'est un point important dans la vie chrétienne, de dire, Seigneur, je te laisse ma vie, et puis on verra ce qui se passera après. Alors, ensuite, il est dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. C'est intéressant, j'en parlerai une autre fois quand je reviendrai de Baltimore, je parlais du combat spirituel encore. Ce ne sont pas les Romains qui vont envoyer ces prisonniers, ces chrétiens en prison, ce ne sont pas les juifs des synagogues, c'est le diable qui va les envoyer en prison. Le diable a un plan. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Et donc, là, le verbe « jeter », dans la façon dont c'est écrit en grec, ça part d'une intention. C'est-à-dire qu'il a un plan pour les jeter en prison. Ce n'est pas par hasard que les choses vont se passer. Et ensuite, et là, je vais m'attarder un peu sur ce mot, « quelqu'un de vous en prison ». Foulaquer. Donc, ça peut parler des sentinelles, une garde. Mais sinon, c'est un lieu secret où on garde les captifs. Alors, encore une fois, nous, on n'est pas sujet à cette difficulté, à cette tragédie que sont les persécutions contre certains chrétiens qui vont en prison, qui meurent, qui sont torturés, etc. Nous, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais on peut se poser la question, est-ce que le diable ne cherche pas à me mettre en prison quelque part ? Des fois, je peux être prisonnier de ma culture. Ma façon de penser. Je peux être prisonnier, évidemment, de ma propre volonté. Je peux être prisonnier de quelqu'un aussi, de ma famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ça ne va pas lui plaire. Je me sens plus redevable devant eux que devant Dieu. Et donc, je fais des compromis concernant la volonté de Dieu. Peut-être que je suis prisonnier de mon égoïsme, de ma propre personne. Je peux être prisonnier des craintes dont je parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui me fait peur et ça me rend captif de ça. Mais qu'est-ce qui me garde, mais dans le sens qui me surveille et qui nous fait peur? Est-ce que j'ai quelqu'un qui a autre que Dieu, qui a une autorité sur ma vie, contraire à la volonté de Dieu? Et le diable a des stratégies pour nous envoyer en prison. D'une manière ou d'une autre. Si je prends le cas de Moïse, par exemple. Moïse, à un moment donné, se rend compte qu'il est vraiment juif. Il a une forme de compassion pour son peuple. Et puis, il voit une injustice être commise. Qu'est-ce qu'il fait ? Il commet un meurtre. Il a été prisonnier de ses pulsions, de sa colère. Qu'est-ce que Saint Jean engendrait ? Alors, on sait qu'après, Dieu a transformé ça en bien. Mais n'empêche qu'il a fui Égypte. Il était dans le désert 40 ans. Isolé. Vous voyez, il n'a pas pu être utile pour délivrer son peuple. Alors encore une fois, Dieu est souverain. Mais lui-même a encore été captif plus tard dans le désert, où il s'est mis en colère, vous savez, il a tapé deux fois contre le rocher. C'est-à-dire que la colère dans la vie de Moïse pouvait être une prison qui l'empêchait de manifester le caractère de Dieu. Mais on voit quand Paul écrit à Timothée, que Paul est au courant d'une autre prison sur la vie de Timothée, c'est sa timidité. Et donc il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force. Une autre prison dans laquelle il aurait pu être enfermé, peut-être c'était le cas, j'en sais rien, mais c'était une prison liée à l'entourage. Et Paul lui dit, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Parce que sa jeunesse aurait pu être une prison. Qui tu es pour dire ça? Nous, on est des anciens. Moi, je me rappelle très bien quand. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais quand j'ai commencé l'église à Paris, un des problèmes qu'il pouvait y avoir, c'est que j'étais novice, donc je pouvais faire plus d'erreurs qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi ma jeunesse qui faisait que quand des gens venaient à l'église et qu'ils étaient plus âgés que moi, ils avaient du mal à accepter l'autorité pastorale d'un jeuneau. Et donc, ça m'enfermait dans une forme de jeunesse. Alors, eux-mêmes étaient enfermés. Dans leur façon de voir les choses. Mais, donc, on voit que Paul fait attention avec Timothée en disant, mais attention à ta timidité, qu'elle soit pas une prison, et attention à ce qu'on t'enferme pas dans cette étiquette, tu es trop jeune pour dire telle ou telle chose. Souviens-toi des dons que tu as reçus par imposition des mains. Ça, c'est l'autorité qui est la tienne. Et c'est là que tu dois vivre. C'est pas dans la crainte de ta jeunesse, c'est pas dans la crainte de la timidité. Parfois, il y a des gens qui sont prisonniers du passé. Et donc, ils ont un deuxième mur, c'est la culpabilité. Passé et culpabilité. Et ils sont enfermés là-dedans. Et ils ne voient pas l'appel de Dieu sur leur vie. Et ils ne manifestent pas le caractère de Dieu. Le diable a une stratégie pour nous enfermer en prison, d'une manière ou d'une autre. Et rappelez-vous, comment sortir de prison ? On peut se poser la question. Comment faire ? Jésus nous a donné la solution. La vérité vous affranchira. C'est la vérité qui nous rend libres. Je veux dire, ce que j'ai vécu dans le passé, c'est une forme de vérité, mais je ne vais pas utiliser le mot vérité, je vais dire une expérience. Mais ce n'est pas la vérité, c'est une expérience. Mais si l'expérience cette expérience mauvaise m'emprisonne aujourd'hui, c'est un mensonge. Ça devient un mensonge. Cette expérience devient un mensonge. C'est pas que l'expérience est fausse. Oui, j'ai commis tel péché. Oui, j'ai été blessé. Oui, on m'a fait du mal. Oui, j'ai été trahi. Oui, j'ai été abandonné. Oui, je me sens seul. Oui, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Oui, ça c'est mon expérience. Mais si aujourd'hui je vis en fonction de ça, je vis dans un mensonge. Même si tout ce que je peux décrire est vrai. Mais je peux pas vivre la liberté que j'ai en Jésus-Christ aujourd'hui. Et donc j'ai besoin aujourd'hui d'accepter le pardon, parce que est-ce que Dieu me pardonne ? Est-ce que c'est la vérité ça ? Oui, c'est la vérité. Est-ce que le sang de Christ m'a lavé de tous mes péchés ? Oui, le sang de Christ m'a lavé de tout péché. Est-ce que Dieu m'a donné le Saint-Esprit ? Oui, il m'a donné le Saint-Esprit. Est-ce que celui qui est né de nouveau est devenu une nouvelle création ? Oui, je suis une nouvelle création. Est-ce que Dieu m'aime aujourd'hui ? Oui, Dieu m'aime aujourd'hui. Est-ce que Dieu a des pensées de paix et non de malheur aujourd'hui ? Oui, il a des pensées de paix et non de malheur aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Et parce que je vis dans cette vérité, je suis délivré de l'esclavage de mon passé. Pourquoi le peuple de Dieu n'a pas voulu rentrer en Canaan après avoir été délivré d'Égypte ? D'abord parce que ils n'ont pas eu la foi. Mais une des raisons qui a fait qu'ils n'ont pas eu la foi, c'est qu'ils avaient une mentalité d'esclave. Ils n'avaient pas une mentalité de soldat. Or, un soldat, peu importe le soldat en face, qu'il soit grand, petit, large, peu importe, si je suis soldat, je vais me battre. Puisque ma fonction est de me battre, voire de mourir. Mais en tant qu'esclave, c'est de subir. Et donc, avec cette mentalité d'esclave, ils étaient délivrés de l'esclavage, physiquement, enfin socialement, ça y est, l'armée de Pharaon était ensevelie sous la mer, voilà, ils étaient sauvés. Tout comme nous, on est sauvés en tant que chrétiens. Mais on peut être esclave de notre ancienne vie. On peut être esclave d'une vaine manière de vivre. On peut être esclave d'une vaine manière de penser. Et donc, j'ai besoin d'être libéré de ces prisons. Et à partir de ce moment-là, dire « Seigneur, aujourd'hui c'est un jour nouveau, je veux penser avec toi. » C'est intéressant, quand on a des projets pour Dieu, ça peut être comme dans une église, ça peut être dans une famille, ça peut être dans une association, peu importe. Tu as ce qu'on appelle en français les oiseaux de malheur. Tu sais, c'est... Alors que tu parles de projets, mais eux, ils sont là pour te donner les mauvaises nouvelles, tu vois.
Il va y avoir des morts.
Les oiseaux de mauvais augure, c'est notre expression en français. C'est fatigant. Je dis pas qu'il faille pas parler des problèmes. Jésus parle des problèmes, mais avec foi. Oui, il y a des espions qui sont envoyés pour connaître un peu la situation. Mais après, nom d'un chien, on garde la foi. Et pareil pour ma propre vie.
J'ai encore ce péché.
Et c'est en train de picorer mon existence, là. Non. L'animal synonyme du Saint-Esprit, c'est une colombe. C'est pas un rapace. La foi simple. La colombe, elle regarde une chose à la fois. Ça, on le sait après. À l'époque, ils ne le savaient pas. Mais on sait scientifiquement que... Si vous regardez un pigeon là dans la rue, vous avez les yeux qui tournent sans arrêt. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas regarder globalement. C'est flou autour. Ils peuvent voir qu'une chose précise. Donc, pour voir plusieurs, ils passent d'un objet à l'autre. Ils regardent une seule chose à la fois. C'est ça une foi simple. Je regarde à Jésus. Le reste, c'est flou. Il y a les corbeaux, ils sont flous dans ma vie. Il y a les oiseaux de mauvais augure, ils sont flous. Il y a les voix négatives, c'est flou. J'entends pas bien, il y a des parasites. J'entends la voix de Christ, la voix du Saint-Esprit. Les prisons dans l'existence. Qu'est-ce qui me garde ? Est-ce que c'est Dieu qui me garde ? Ou ce sont d'autres choses qui me gardent ? Ma façon de voir les choses, un attachement d'âme. Ah, si je fais quelque chose, que va en penser l'autre ? Et on est prisonnier. Prisonnier des amitiés qui ne sont pas pieuses, liées à un attachement d'âme. Des relations familiales qui ne sont pas pieuses, liées à un attachement d'âme. Des relations dans le couple qui ne sont pas pieuses, même s'il y a une apparence d'unité. C'est-à-dire, si toi tu fais quelque chose, il faut que je sois avec toi. C'est-à-dire, une seule chair, ça ne veut pas dire tout faire ensemble. C'est les petits-enfants qui ont besoin de leur maman en permanence. Mais on peut être une seule chair et avoir des ministères différents et vivre devant Dieu tout en étant respectueux de l'institution du mariage. On doit être libre. Pourquoi vivre dans l'insécurité ? Il y a des hommes qui sont tellement possessifs avec leur épouse, ils en sont jaloux à un point tel, tout doit être fait avec eux. Et des fois, c'est l'inverse. Où tu vas ? Tu ne penses pas à moi, tu me laisses toucher. Alors, c'est faux. Mais voilà un attachement d'âme. Dieu nous a appelés à la liberté. Vivez comme si vous n'étiez pas marié. Et prenez les décisions que vous avez à prendre, s'il le faut. Parfois, on est attaché à l'argent, son mode de vie. Moi, il me faut mes vacances, il me faut... Attention, je ne suis pas contre les vacances, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si au bout du compte, au bout d'un an, vous avez plus pensé à vous-même qu'au corps de Christ et au royaume de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Tout ça sont des choses qui nous paralysent et qui nous gardent en prison. Des fois, on est prisonnier de sa paresse. La paresse, mes amis, faites attention. C'est l'atelier du diable. Là où il n'y a pas d'action, il y aura l'action de quelqu'un d'autre. La paresse est l'atelier du diable. On est à l'image de Dieu. Dieu est créateur, n'est-ce pas ? Quand on crée, on est actif, on a toujours des choses, des projets, des idées. Moi, des fois, ça me ronge quand je regarde ma liste avec les idées que j'ai. Je dis, Seigneur, vivement l'éternité, parce que là, j'aurai le temps. Vous voyez ? Mais en même temps, c'est enthousiasmant d'avoir des projets. Je veux dire, on est là pour être actif dans un domaine ou dans un autre. Alors ensuite, il y a un autre verbe dont j'aimerais parler. Quelques-uns, donc le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Qu'est-ce que ça veut dire éprouver là, dans ce contexte ? C'est d'un côté négatif, parce que c'est le diable qui le fait, c'est qu'il veut prouver qu'on n'a pas la foi. Il veut prouver qu'on n'aime pas Dieu. C'est ce qu'on voit dans Job chapitre 1 et 2. Ah, laisse-moi le persécuter un peu ton serviteur, tu vas voir s'il va continuer à t'adorer. L'adoration est la raison principale de l'action du diable. Le diable a séduit Adam et Ève pour prendre l'adoration sur lui. Matthieu 4, Luc 4, le diable a tenté Jésus pour que Jésus l'adore. L'adoration est la clé. Lorsque on est dans l'amertume, et qu'on est incapable de remercier Dieu chaque jour, c'est une stratégie du diable pour qu'on n'adore plus Dieu et qu'on adore, alors pas consciemment le diable, mais on adore son caractère, l'amertume, la vengeance, la colère, la division, le vol, le mal. L'adoration, c'est la clé. Et c'est pour ça que je dis que chacun d'entre nous, on a un appel. c'est d'être des adorateurs. On a tous été faits un royaume de sacrificateurs. Vous savez, la liberté qu'a le chrétien, c'est qu'en prison, il peut adorer Dieu. Rien ne peut l'empêcher d'adorer Dieu, sauf lui-même. Il n'y a que moi qui peut m'empêcher d'adorer Dieu. Les gens peuvent m'empêcher d'évangéliser, peuvent m'empêcher d'être pasteur, ils peuvent empêcher les églises, ils peuvent les fermer, on peut nous torturer, mais personne ne peut nous empêcher d'adorer Dieu. Si la vérité nous garde libres, quand on est, consumé par la vérité, C'est pour ça que, vous savez, des fois les épreuves qu'on traverse, elles sont difficiles. Moi, il y a des choses dont je me passerais bien. Néanmoins, j'ai décidé dans ma vie de toujours interdire à ma pensée de dire ceci, c'est la faute à Dieu. Ce n'est jamais la faute à Dieu. Jamais. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Point barre. Jésus a toujours raison. Vous savez, c'est une chose de dire, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, et Dieu dit d'accord, et puis il fait quelque chose avec nous, et ça nous plaît pas. Ça veut dire qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Si Dieu peut faire ce qu'il veut de notre vie, j'accepte tout ce qu'il permet. Et des fois, j'accepte qu'il me demande de me battre pour certaines choses. C'est pas de la passivité. Ça peut être un combat. Vous voyez? Mais, amen, Seigneur. C'est toi qui auras toujours raison. Dieu n'a jamais tort, jamais. Alors des fois, je peux ne pas comprendre, c'est peut-être parce que je suis un peu aveuglé dans un domaine, je suis peut-être pas assez équipé dans la parole, ou je n'ai pas assez de discernement, peut-être que Dieu va me l'expliquer plus tard. Voilà, il y a peut-être des raisons. Mais je sais que de toute façon, c'est lui qui a raison. Et ça donne une certaine sécurité. Ça frotte un peu, parce qu'on est obligé de prendre sa croix, ça ne nous fait pas plaisir. Et en même temps, ça nous amène à une forme de sérénité. Je vais vous raconter une anecdote un peu bizarre, mais j'hésitais à vous en parler depuis tout à l'heure, mais je crois que c'est nécessaire. Dieu m'a parlé d'une façon très très bizarre. Je vous explique. Alors, pouf pouf, vous avez du temps ? Ok. Vous allez rentrer dans mon intimité là, dans notre intimité même, de couple. Une certaine intimité. Et en fait, mon épouse donc travaille des fois de soir, de nuit, etc. On a des horaires complètement différents. Et donc, pour que les uns et les autres puissent se reposer, des fois, on dort pas ensemble. Un dort dans la salle à manger, l'autre dans la chambre. Et dernièrement, j'avais plutôt dormi dans la chambre. Et là, j'étais dans la salle à manger, dans le canapé. Je dormais très bien. En plus, c'était très, très profondément, 5h20, vraiment. Et d'un seul coup, l'alarme anti-fumée se met à sonner. Ça fait du bruit. Et donc, déjà, j'ai mis du temps à émerger. Je pense que ça a dû sonner 2-3 fois parce que j'étais tellement loin. Et quand j'ai commencé à émerger, c'est où je suis. Je mets la main, c'était pas comme d'habitude, dans le noir. Ah oui, je suis dans la salle à manger. Bon. Donc j'y vais, j'allume la lumière, je monte sur la table pour enlever ce truc qui était en train de sonner. J'enlève le boîtier, donc ça s'arrête. Et là, je me demandais pas ce qui s'est passé parce qu'il y a comme un blanc. Je me suis retrouvé le dos sur la table. C'est une table basse, vous savez. Donc j'ai fait comme une pirouette. Je me suis retrouvé le dos sur la table. Et en même temps, il y avait un drap, je vous raconte tout, il y avait un drap qui séchait sur des chaises hautes. Les deux chaises hautes sont tombées par terre. Donc à 5h20, entre la sirène, les chaises qui tombent, moi sur la table, etc., je vous dis pas. Pas mal. Rien du tout. Mais en même temps, un sentiment d'insécurité fort entre la peur du bruit pour les voisins, cette sirène. Moi, j'étais complètement paumé, j'ai failli me faire mal, etc. Je me recouche, j'étais pas vraiment en état de dormir. Mais c'est là où Dieu parle. Pourquoi ? Parce que j'avais un souci particulier par ailleurs, et je pense que j'avais un manque de foi, de me mettre au diapason de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait ? En fait, il a accentué dans un autre domaine, plus physique, je dirais, circonstanciel, une insécurité. C'est fait que j'étais comme désécurisé avec ce qui s'était passé. Et là, je me suis dit, la seule façon pour pas que mes pensées tournent en rond, je vais écouter un message de Pasteur Stevens sur la foi. Et le message, je vous en parlerai prochainement, c'était sur la foi de Jésus-Christ. Et ça m'a donné un repos incroyable de rentrer dans ce message. Je n'ai pas écouté tout parce qu'après je me suis endormi. Mais en tout cas, ça m'a donné un repos et j'ai pu le transposer dans l'autre sujet. Vous voyez, j'ai dit, ah ben voilà, je dois avoir la même foi. Là, ça m'a calmé pour la situation que je viens de vivre. C'est-à-dire que j'étais une forme d'insécurité, presque panique. Et là, je l'ai appliqué à l'autre sujet, guérison. Terminé. Vous voyez comment Dieu peut agir, peut parler. Mais parce que on est à la disposition de Dieu. C'est-à-dire que ce qui venait de se passer dans la nuit, c'est Dieu qui l'avait permis. Et donc, il fallait que je m'attende à Dieu. Tout est spirituel. Et donc, à un moment donné, il y a cette décision, c'est « Seigneur, c'est toi qui as raison. » Je me place sous ce qui vient se passer, mais simplement, aide-moi maintenant. Parce que maintenant, c'est ton job. Et Dieu a répondu d'une façon extraordinaire. Vous voyez comment ça fonctionne ? Ne crains pas ce qui va arriver. Donc là, je savais qu'il ne m'était rien arrivé. Sur l'autre sujet, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est comme si le résultat était déjà là, le repos de Dieu. Et ce que Dieu veut faire dans notre vie, quand il nous parle comme ça, c'est arrête de craindre. Arrête de craindre. Et là, c'est intéressant parce que quand on continue, il ne parle pas simplement de la tribulation, de la souffrance et tout ça. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et là, pareil, soyons pratiques. Est-ce qu'on est prêt à être fidèle jusqu'à la mort? Quand, il y a deux sens dans ce passage. Il y a fidèle jusqu'à la mort, c'est-à-dire est-ce que même la mort, ou la crainte de la mort, ou l'éventuelle crainte de la mort, n'aura pas de prise sur toi, tu seras fidèle jusqu'au bout. Mais aussi, il y a une autre façon de le voir, c'est est-ce que tu seras fidèle jusqu'à ce que tu vas mourir? Et certains d'entre vous, vous allez peut-être mourir dans 50 ans. Est-ce que vous serez fidèle jusque-là? Est-ce que vous allez accepter d'être fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de cette existence-là? C'est long. C'est long. Il y aura des tentations. Il y aura des épreuves. Pour d'autres, c'est moins. Normalement, statistiquement, j'ai une bonne nouvelle pour toi, statistiquement. Mais il y en a, ça peut être la crainte de la mort imminente. Et l'autre, ça peut être la crainte, est-ce que je serai fidèle pendant des dizaines d'années? Est-ce que je serai fidèle jusqu'à la mort? Là, c'est d'être loyal, fidèle. Ça peut être dans la transaction des affaires, dans l'exécution des ordres, ou dans l'accomplissement des devoirs officiels. C'est ça la fidélité. C'est la fidélité que l'on trouve avec David et Jonathan, par exemple. Vous voyez, c'est cette fidélité où c'est comme des vœux, il y a un engagement. Et quoi qu'il arrive, je resterai fidèle. Et vous savez, le diable est le contraire de la fidélité et il fera tout pour que vous ne soyez pas fidèle. Pas fidèle dans votre mariage, pas fidèle vis-à-vis de vos enfants, pas fidèle vis-à-vis de vos parents, pas fidèle vis-à-vis de vos employeurs, pas fidèle vis-à-vis de vos amis, pas fidèle. Voilà, essayez d'être fidèle quand vous n'avez pas d'attachement d'âme. Quand il y a un attachement d'âme, on est toujours fidèle. Pourquoi ? Parce qu'on est prisonnier, on est esclave, on est obligé d'être fidèle. C'est pas de la fidélité, ça, quand on est esclave de l'âme de quelqu'un d'autre. Mais quand on est libre et qu'on choisit d'être fidèle, ça c'est quelque chose. C'est une décision. C'est une décision. Ce qui fait qu'il peut y avoir des moments où ça ne nous arrange pas d'être fidèle, mais on va être fidèle. Vous savez, un des problèmes de la souffrance humaine, surtout en Occident, dans ce domaine-là en l'occurrence, c'est que les gens pensent qu'ils n'ont pas tellement de valeur. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'objectif noble. Leur objectif, c'est d'avoir un écran plus grand, un meilleur téléphone, une meilleure bagnole, d'aller plus en boîte, de se saouler un peu plus qu'avant, d'avoir plus de femmes, d'avoir une plus grande maison. Voilà leurs objectifs. Et après, ils se disent « je vais pas bien ». Bah, bien sûr que tu vas pas bien. Tu n'as pas été créé pour des valeurs temporelles, même si elles sont agréables à vivre. Mais tu n'as pas été créé pour faire des courses, pour avoir ton petit jardin, pour avoir ton petit... voilà, ton petit truc. Non. Tu as été créé pour semer dans la vie éternelle. Et tu le récolteras là-haut. Et du coup, ça nous donne une identité. Ce qui est drôle, c'est que parfois, les gens, on est contradictoire, on va dire « Oh, ma vie est nulle. Oh, à quoi ça sert la vie ? Oh !» Ben alors, si elle vaut rien, ta vie, donne-la. Dieu, il la prend. Donne-la, ta vie, puisque ça vaut rien. Ah ben non, ah ben c'est qu'elle a quand même de la valeur, alors, si tu ne veux pas la donner. À la limite, je peux comprendre quelqu'un qui a tout, la santé, les affaires, il travaille 10 heures par semaine et puis il gagne 50 000 euros par mois. Il n'a pas envie de donner sa vie et de faire de compromis par rapport à ses principes et ses idéaux à lui. On peut comprendre, il a une forme de paradis sur la terre. Mais les gens qui se plaignent d'avoir une vie nulle, bah donne-la à Dieu. Donne-la à Dieu. C'est-à-dire, au lieu de vivre la haine, vis l'amour. Au lieu de vivre dans la frustration, vis dans le contentement. Au lieu de vivre dans le doute, vis par la foi. Au lieu d'être en colère, accepte le pardon. Au lieu de vivre dans la culpabilité, vis dans la restauration. Au lieu de vivre dans l'insignifiance, vis dans les valeurs éternelles. Enfin, Dieu a des choses extraordinaires. La seule, enfin, quand je dis la seule, c'est pas la seule chose, mais il faut accepter l'idée qu'on prépare quand même un monde à venir. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tout de suite le résultat. Je suis d'accord avec vous. Il peut y avoir un contentement intérieur, une paix avec Dieu déjà maintenant, ça c'est sûr. Pour les gens de Smyrne, je ne sais pas s'ils ont été gagnants sur cette terre d'obéir au commandement du Seigneur, soit fidèle jusqu'à la mort. Ils n'ont pas forcément été gagnants. Mais je suis 100%, 1000%, 10 000%, 50 millions % sûr que Dieu va les bénir là-haut. Oui ou non ? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on a un Dieu qui ne ment pas ? La seule chose, c'est que nous ne vivons pas dans un mensonge en pensant que Dieu est en train de construire un royaume ici-bas et une vie pour nous ici-bas. Non. L'Église est une lumière qui annonce quelque chose à venir et que ça soit notre premier objectif. Et donc la fidélité va nous aider à être loyal et on n'aura pas peur de la mort. Et en plus, ça termine, alors pour le coup, c'est la conclusion ultime, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et ça, en fait, c'est une bénédiction finale qui fait à chaque fois pour chaque église, mais qui en fait s'adresse à tous les croyants. Soyons reconnaissants, oui, nous allons vivre la mort ici-bas, et peut-être qu'elle ne sera pas facile, et peut-être même la vie avant cette mort sera peut-être difficile. Mais la bénédiction, c'est qu'on n'aura pas à souffrir la seconde mort. Le lac de feu, l'éternité hors de Dieu, le jugement du grand trône blanc, nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort. Vous savez que les impies vont ressusciter pour passer au jugement du grand trône blanc, mais ils vont être envoyés en lac de feu et ce sera la seconde mort. Nous, on va ressusciter pour ne plus jamais mourir. C'est pas la même chose. Il y a deux sortes de résurrection. Il y a la résurrection pour entrer au paradis et il y a la résurrection pour être jugé. Nous avons été déjà jugés. Nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort. Alléluia ! Est-ce qu'on a parfois une vie difficile ? Oui, bien sûr, je peux comprendre. On a une vie difficile. On est des fois, on a les épaules chargées par nos pensées, par nos doutes, bien sûr. Mais on n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia ! Merci Seigneur ! Et le diable, je peux te le dire en face, je ne souffrirai pas la seconde mort. Ce que tu voulais me faire vivre depuis Genèse 3, toute la descendance d'Adam. Nous ne souffrirons pas la seconde mort.